Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons la cérémonie de remise de ces premiers 6 prix PEPS comme passion, enseignement et pédagogie dans le supérieur, qui a connu et connaît un très grand succès puisque près de 300 dossiers ont été déposés et qu'il n'y a malheureusement à la fin que 6 vainqueurs. Les prix sont destinés à reconnaître la qualité de l'enseignement, la qualité des initiatives pédagogiques et à promouvoir le développement de modalités pédagogiques innovantes et les valoriser au sein de la communauté de l'enseignement supérieur. Ces projets ont été départagés par un jury international présidé par Denis Bédard, qui est professeur à l'université de Sherbrooke, Québec. Et ce jury a réuni des représentants d'étudiants, de direction d'établissement, d'enseignement supérieur et un certain nombre d'experts reconnus. 4 catégories, disais-je: innovation pédagogique au sein d'une unité d'enseignement ou d'un programme, avec 2 lauréats. Catégorie soutien à l'innovation, avec des actions qui favorisent l'implication des enseignants dans la transformation des méthodes, 2 lauréats également. Formation tout au long de la vie, ça concerne le développement d'une offre ou de modalités de formation contribuant à la sécurisation des parcours professionnels, 1 lauréat, et recherche en pédagogie, qui contribue à la transformation des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur français, 1 lauréat, 6 équipes donc, qui ont été récompensées, 10 000 euros chacune. J'appelle Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, et Denis Bédard, monsieur le président du jury, rebonjour.
Rebonjour.
Monsieur le ministre, une question toute simple. Quel était l'enjeu quand vous avez décidé d'organiser ces premiers prix PEPS, passion, enseignement, pédagogie dans le supérieur?
L'enjeu, c'était évidemment de mettre, un coup de projecteur sur à la fois un certain nombre d'initiatives qui vont être lauréates, mais à travers ce coup de projecteur sur ces initiatives, de mettre plus généralement la lumière sur l'effort incroyable d'innovation pédagogique qui est en train d'émerger dans notre pays. C'est les 4 prix que vous avez, ceux de l'innovation, enfin je les
répète. Et le nombre de candidats montre ça.
Oui, là, presque 300 candidats. C'est le début d'un mouvement qui est à la fois indispensable, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai en conclusion très très rapide, mais dont les acteurs qui sont dans la salle ici sont convaincus. C'est une nécessité. Et c'est en même temps, je trouve, la meilleure illustration de ce que peut apporter une autonomie responsable des établissements. Moi, je suis pour l'autonomie responsable, je reviendrai aussi sur ces mots tout à l'heure, des établissements, des organismes de l'enseignement supérieur. Donc c'était nécessaire et c'était pour, à travers des lauréats, montrer la puissance d'un mouvement d'ensemble et la puissance d'une transformation silencieuse mais réelle.
Merci. Denis Bédard. 4 catégories, 6 gagnants, et cependant, des points communs entre les projets gagnants, lauréats.
Oui, tout à fait. J'allais dire, comme courte introduction, pour moi, tous ces projets sont gagnants, dans le sens où chacun aurait pu recevoir un prix pour une dimension, parfois un aspect qui se démarquait, qui était notable. Et ça témoigne effectivement de ce que l'on qualifie en anglais de « grassroots efforts », alors des efforts de la base, pour faire justement monter. Et le simple fait d'avoir déposé un dossier, c'est un effort de reconnaissance institutionnelle, nationale. C'est très positif. C'était une réelle expérience intéressante que de participer à jury et de le présider. Et donc, des éléments communs. Certainement, on peut reconnaître la présence de différents enjeux qui sont présents dans tous ces projets: motivation, engagement, persévérance, réussite, etc. Des moyens qu'on met en place, technologie, en utilisant les technologies, classe inversée, mais aussi approche collaborative, approche par projet, etc., tous dans une perspective de favoriser l'acteur dans son apprentissage, l'apprentissage actif. Et ça aussi, c'est vu de façon généralement commun à tous ces projets. Et je crois qu'il faut aussi remarquer que ces enjeux peuvent être presque considérés de façon parallèle, tant du point de vue de l'apprenant, de l'étudiant, que des enseignants eux-mêmes. Donc, il y a la motivation de l'enseignant, il y a la motivation de l'apprenant. Et ça sera intéressant de voir conjuguer ces deux réalités les unes aux autres dans ce devenir qu'on pourrait qualifier de communauté de pratiques innovantes dans les universités en France.
Merci, Monsieur le Président du jury. Alors, sans plus attendre, je vous livre le nom du lauréat de la catégorie, du premier lauréat, puisqu'il y en aura deux de la catégorie innovation. C'est le projet Apprendre le marketing autrement, le produit Fil Rouge, qui est porté par Laurence Chérel, qui peut nous rejoindre, et Catherine Lapassouze, Madrid, de l'Université de Bordeaux, IUT Technique de Commercialisation. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, bonjour, bravo. Bravo,
bravo, bravo, bravo. Je suis Laurence Chérel, je suis enseignante à Bordeaux. Je suis agrégée en économie, spécialité marketing.
Catherine Lapassouze, Madrid, je suis maître de conférence en sciences de gestion et j'enseigne le marketing à l'IUT Technique de Commercialisation de Bordeaux. Pourquoi ce projet ? Parce que nous trouvons que les cours en amphi ne correspondent plus forcément à la culture actuelle des étudiants. Et nous avons donc souhaité, pour entre guillemets ne pas nous ennuyer en cours, mettre en place un dispositif qui permette de s'adapter à cette culture des étudiants.
L'originalité de notre méthode, c'est de proposer une approche combinatoire de plusieurs méthodes pédagogiques, avec au centre un projet que chaque étudiant choisit et sur lequel il travaille de façon individuelle. Pour qu'il puisse travailler, nous mettons à disposition de multiples ressources en ligne et l'étudiant doit accéder à ces ressources à son rythme. Ensuite, lors des séances de TD en présentiel, nous débriefons avec lui les cours et nous appliquons les concepts théoriques à chaque projet d'étudiant.
Ce type de projet place l'étudiant au centre de son apprentissage. Quelque part, elle lui demande beaucoup d'implication, mais elle lui propose également de devenir acteur de son apprentissage. Et comme le disent certains, ils se sentent entrepreneurs. Finalement, ça leur permet de confondre travail et plaisir d'apprendre le marketing.
Ça nous a permis de sortir de notre routine, de notre zone de confort, des corrigés ou des notes pédagogiques. Ça nous permet d'être dans l'accompagnement de l'étudiant et de travailler avec lui à son rythme. Et on est donc plus des guides que des enseignants qui transmettons du savoir. Ce que l'on veut, c'est transférer du savoir-faire, du savoir-être professionnel.
Ce que ce prix va nous permettre, c'est en quelque sorte de diffuser la méthode d'apprentissage du marketing que nous avons mise au point. Et en quelques mots, nous souhaiterions devenir le TOEIC du marketing en mettant en place un processus de certification qui permette d'acquérir des compétences en marketing fondamental.
Thierry Mandant vous remet donc ce diplôme. Comme le disait le ministre, on ne reconnaît pas très bien la Garonne sur le film, mais vous n'êtes pas en technique de commercialisation pour rien, parce que devenir le TOEIC, donc bravo. Vous avez la possibilité de remercier qui vous voulez et de le pupitre vous tend les bras.
Ce prix nous procure un immense plaisir pour nous et aussi pour Techdeco Bordeaux, notre établissement, qui est depuis sa création en 67 un immense terreau d'innovation pédagogique, avec depuis le début des simulations pédagogiques, l'encadrement de 150 étudiants à l'international chaque année, des projets tutorés sous forme d'associations, et qui nous procure à nous, les enseignants, une grande confiance et une grande liberté pour mettre en œuvre nos projets pédagogiques.
Alors, notre initiative, elle est finalement toute simple et elle ne nécessite pas de moyens lourds. Et nous pensons qu'une partie de la réussite de cette initiative repose sur le fait que chaque étudiant choisit un projet qui lui tient vraiment à cœur et qu'il va mener pendant une année de formation. Et donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on veut vraiment placer l'étudiant au cœur de son apprentissage, une liberté de parcours d'apprentissage à son rythme, de façon à la fois personnalisée et individualisée. Et nous voulons vraiment être des coachs, l'accompagner vers ses savoir-faire, des savoir-être, pour le professionnaliser, puisque c'est la vocation première des IUT.
Bravo, bravo. Bravo et merci, bravo. Vous avez placé la barre très très haut pour les suivants. Le deuxième lauréat de cette catégorie innovation, c'est le projet le transfert de connaissances et d'aide à la décision pour former des géographes de la santé, qui est porté par Myriam Baron, Stéphane Rican et Zoé Vaillant de l'Université Paris-Ouest Nanterre de la Défense et Paris-Est Créteil. Bonjour, bienvenue, bravo, nous découvrons votre projet. En vidéo.
Je m'appelle Zoé Vaillant, je suis maître de conférence en géographie de la santé à l'Université de Nanterre. Je suis membre du laboratoire LADIS et je coordonne le projet Géodépistage.
Je m'appelle Myriam Baron, je suis professeure en géographie à l'Université Paris-Est-Créteil. Je suis membre du Lab Urba et un des responsables du master Territoire, Ville et Santé.
Depuis plus de 10 ans, les collectivités locales, les élus locaux, les acteurs régionaux de santé publique expriment un besoin croissant de connaissances, d'informations, d'analyses sur les déterminants des inégalités sociales et territoriales de santé sans vraiment disposer de connaissances fines, de données fines. Donc l'idée a germé de faire se rencontrer ce besoin d'innovation en pédagogie et cette demande sociale de connaissances sur les inégalités de santé en créant ce qu'on a appelé, avec l'équipe pédagogique du Master Territoire Ville et Santé, un projet tutoré. Ça consiste à faire produire aux étudiants des diagnostics territoriaux de santé en répondant à une commande d'acteurs, donc dans le cadre d'une plateforme régionale qu'on a appelée plateforme géodépistage, et qui réunit plus de 19 acteurs de santé publique, des élus locaux intéressés par la thématique que l'on traite. Et depuis 5 ans, on traite la thématique du dépistage du cancer du sein. Donc l'idée, c'est que les connaissances produites soient utiles au pilotage de politiques locales de réduction des inégalités de santé.
Pour les étudiants, ce diagnostic territorial, ce projet tutoré, c'est souvent la première commande qu'ils ont en provenance d'un milieu non académique, avec un cahier des charges assez exigeant. C'est l'occasion aussi pour les étudiants de rencontrer potentiellement leurs futurs employeurs. Actuellement, c'est à peu près le tiers de nos diplômés qui travaillent dans les collectivités territoriales et les organismes du type agence régionale de santé.
On espère que cette reconnaissance va pouvoir permettre de remettre en débat l'organisation des formations et de la pédagogie en master. On espère aussi que ce prix va nous apporter du poids pour négocier des nouveaux soutiens auprès de nos tutelles.
Voilà, donc Thierry Mandon vous remet ce prix. Vous pouvez peut-être en profiter pour échanger avec lui.
J'ai eu la chance d'assister à l'Université de Nanterre à une présentation de Zoé et de son équipe. C'est un projet d'innovation pédagogique, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est vraiment un projet qui, à la fois, c'est une sorte de Living Labs. Ça joint la pédagogie, l'utilité de la pédagogie, l'aspect théorique, l'aspect pratique. Enfin, c'est vraiment
l'insertion professionnelle.
L'insertion professionnelle, enfin, en tout cas pour partie. C'est vraiment un projet
gestion des
extrêmement
data.
Innovant qui crée presque une catégorie à lui tout seul. Voilà. Et le message qui m'a été rappelé à la fin du film m'avait déjà été énoncé à Nanterre. Donc ça finit par rentrer. La pédagogie, c'est la répétition.
Bon, bravo. Merci, monsieur le ministre. Prenez la parole, Zoé.
Je remercie l'ensemble des organisateurs et des créateurs de ce prix. Je voudrais juste resituer le projet. On a présenté quelque chose qu'on a sur le dépistage qu'on a travaillé depuis 5 ans, 6 ans. Mais cette réflexion sur la pédagogie, sur le lien avec les acteurs de terrain professionnel, on l'amène au sein du master depuis plus de 15 ans, depuis la création, c'était la DEA à l'époque, par professeur Amatrose et professeur Salem. On mène cette réflexion et cette transformation progressive de la pédagogie. Et puis, je répète encore que on est vraiment très, très contents.
Hein. Bravo.
Non, mais, voilà, vous savez ce que je répète, quoi. Donc, on va rentrer à la maison et puis on va discuter avec nos autorités. Et nos collègues aussi, nos collègues. Parce qu'on espère bien que dans d'autres disciplines, en sociologie, en anthropologie, en droit, en éco, tous ceux qui sont dans l'université de Nanterre et de Créteil puissent... prendre un peu de graines de cette façon de faire qu'on pense assez porteuse. Merci.
Bravo, bravo. Bravo, bravo. Alors, nous avons un bon tempo. Nous continuons sur ce tempo avec le troisième lauréat qui est le vainqueur numéro 1 de la catégorie soutien à la pédagogie. Il s'agit d'un projet qui nous vient du sud de la France, de Perpignan, où il y a non seulement la plus belle gare du monde, mais donc les plus beaux projets pédagogiques, en tout cas en catégorie soutien à la pédagogie. Le projet, le contrat enseignant pédagogie innovante, CEPI, comme levier de l'innovation, portrait, mais aussi porté, finalement, par Anne Vitschak, qui nous rejoint, Pascal Amiot et le vice-président numérique Bertrand Moquet de l'Université. Bienvenue, bravo. Nous regardons votre film.
Je suis Bertrand Moquet, je suis vice-président en charge du numérique à l'Université de Perpignan et je présente le contrat enseignant pédagogie innovante que nous avons réalisé avec Pascal Amiot, qui est vice-président de formation, et Anne Vitschak, qui est vice-présidente en charge de la vie étudiante et de la culture. Ce contrat enseignant pédagogie innovante a été créé en 2014 sous l'impulsion de notre président Fabrice Lorente et il avait pour but de résoudre en fait les nouvelles problématiques d'enseignement supérieur, à savoir remotiver nos étudiants, se repositionner par rapport à l'accès à la connaissance qui a totalement changé maintenant avec l'arrivée du numérique et puis arriver à soutenir la pédagogie. Ce contrat permet à des enseignants de disposer d'une charges d'enseignement de 96 heures TD pendant la première année et d'être accompagné après avoir déposé en fait un projet d'environ une trentaine d'heures pour des étudiants. L'originalité aussi de ce programme est de faire venir des intervenants extérieurs à l'université pour apporter des domaines de compétences, des domaines de connaissances que nous n'avions pas en interne, gérer une pédagogie interactive, être capable de mieux animer un amphithéâtre, être capable de provoquer la motivation des étudiants, de scénariser des enseignements, voilà quelques sujets qui ont été abordés durant les conférences. Ce programme CEPI a beaucoup apporté à notre établissement. La première chose, c'est que il a permis de pouvoir travailler ensemble en tant qu'ancien de droit avec un ancien de sciences. Donc tout ceci n'existait pas, donc ça a permis de travailler là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il a permis de développer les usages du numérique là où il y en avait besoin. Et enfin, et peut-être surtout, c'est la possibilité de travailler dans un mieux-être au travail, un mieux-être qui est du côté enseignant-chercheur, mais aussi du côté des étudiants qui se retrouvent, nous l'espérons, dans une meilleure condition de réussite. Ce prix PEPS, il valorise bien évidemment l'innovation qu'on a mis en place et c'est un signe extraordinaire que nous envoie notre tutelle. Et puis il nous donne envie aussi d'aller peut-être encore un peu plus loin, pourquoi pas en créant l'arrivée d'un conseiller pédagogique au sein de l'Université de Perpignan.
Voilà.
Thierry Mandon vous remet le prix. Voilà, je crois que c'est Pascal Amiot qui va parler. Pascal,
vous avez la parole. Alors on peut le faire. Ah oui, la photo. N'oublions pas la photo. Voilà. Et puis vous savez, on va changer. Je vais vous interviewer plutôt que le pupitre.
Ça, hein, si ça vous va. Ça va,
voilà. Alors quelle est votre réaction?
La réaction à la, c'est un grand élan de reconnaissance et puis une très grande satisfaction par rapport à quelque chose dans lequel on croit très profondément et qui est un élan on ne peut plus collectif avec les étudiants, les collègues, les équipes administratives, techniques, pédagogiques, les collègues étrangers et les spécialistes nationaux qui sont venus en soutien bénévolement, en prenant de leur temps pour venir en soutien à ce projet parce qu'ils y croyaient comme nous. Et surtout, c'est un projet qui est spectaculairement transformant. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans l'atelier « La transformation pédagogique au cœur ». De la politique, enfin des stratégies d'établissement. Et voilà, on y croit très fort. On invite les collègues des établissements intéressés à venir de visu observer à l'Université de Perpignan, observer la vie et surtout l'évolution de ce projet. Et c'est plus qu'un projet maintenant collaboratif. Et je terminerai en parlant d'état d'esprit, parce qu'on parle de transférabilité. Et je pense que ce qui a marqué la réussite de cette initiative, c'est avant tout les valeurs de solidarité, d'humanité, de respect. Et conservons-les.
Merci beaucoup. Bravo. Il y a un deuxième projet dans cette catégorie soutien à la pédagogie. Nous allons maintenant appeler Florence Michaud, Sophie Abri et Stéphane Guillet pour le projet Conduire conjointement un soutien à la pédagogie à l'usage du numérique. Et nous regardons votre film.
Je suis Florence Michaud, enseignante-chercheure à l'Institut Polytechnique de Grenoble et j'anime l'équipe Perform qui a pour mission d'aider les enseignants à perfectionner leur formation. La particularité de notre équipe, c'est qu'elle joue sur trois axes, la pédagogie, le numérique et la dimension internationale. Et c'est l'intérêt de cette approche qu'on a présentée au PEPS. Par exemple, on accompagne des enseignants à créer des jeux de plateau pour entraîner les étudiants à débattre, négocier en anglais ou être confrontés à des situations interculturelles. Eh bien, au-delà de la dimension internationale, pour concevoir les jeux, on s'appuie sur une expertise pédagogique et pour la création de la bibliothèque de modèles de jeux, on s'appuie sur le numérique. Quand nous nous sommes lancés en 2006 dans la pédagogie universitaire, en nous formant auprès de nos collègues suisses, le sujet était encore un peu tabou, mais nous avons gagné depuis la confiance des enseignants et un appui, un soutien vraiment de notre établissement, dont on peut dire que maintenant il a une culture dans le domaine. Notre initiative sur la pédagogie universitaire, elle a été rapidement suivie par l'Université Joseph Fourier qui a créé un SUP. Et à partir de là, on a collaboré très étroitement ensemble. Et nous avons créé le réseau PENSERA, premier réseau français de développement professionnel des conseillers pédagogiques. Et ça veut dire pédagogie de l'enseignement supérieur en Rhône-Alpes. Ce prix, tout d'abord, il renforce le choix qu'on a fait il y a 10 ans d'aborder l'amélioration de l'enseignement de façon absolument globale et surtout sans séparer la pédagogie universitaire de la pédagogie numérique. Et évidemment, on espère que ça va encourager des structures à faire de même. Et puis, cette reconnaissance, elle crédibilise aussi notre choix de nous être appuyés sur le collectif et la diversité. Et à ce titre, j'aimerais associer tous les collègues qui ont cultivé cette dynamique avec nous.
Bravo. Remise de votre diplôme. Photographie avec Thierry Mandon. Voilà. Et Denis Bédard. Voilà, Florence, vous voulez interview ou pupitre? Pupitre, vous y êtes.
Okay. Donc, d'une part, comme vous l'avez compris, ce qui est très important pour nous, c'est de ne pas séparer ces trois axes, et en particulier d'investir autant dans la pédagogie universitaire que dans la pédagogie numérique. Parce que les changements sont profonds en termes de compétences des étudiants et compétences des enseignants et amélioration continue. Et puis, comme je le disais à la fin, on associe beaucoup de collaborateurs à cette récompense. D'abord, les enseignants de Grenoble INP avec qui on travaille au quotidien, notre établissement qui nous a apporté un soutien sans faille, toute la communauté francophone auprès de laquelle on a appris beaucoup en pédagogie universitaire. Comme vous l'avez compris, on s'est formé auprès des Suisses, mais aussi auprès des Québécois et des Belges. Et puis, bien sûr, le SUP, SUPTIS de l'Université Grenoble-Alpes, avec qui on collabore sur tout ce qui est atelier et accompagnement, le réseau PENSERA que j'ai cité, et tous les projets avec lesquels on a travaillé collectivement, que ce soit Innovalang, Reflex Pro qu'on démarre, et le formidable équipe du MOOC Nord-Sud des Rivières et des Hommes. Voilà, donc je voulais associer toutes ces personnes aussi à ce prix.
Bravo. Merci, bravo. Reprenons le cours des affaires courantes avec la catégorie formation tout au long de la vie. Un projet qui est le centre de simulation tourné vers l'avenir, porté par Erwan Lair et Alexandre Morel de l'Université Bretagne Occidentale. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Et nous regardons votre vidéo.
Je vous présente l'équipe qui a porté le projet PEPS 2016, donc le projet PEPS du Centre de Simulation Santé de l'UBO, le CESIM. Le projet a été porté par le professeur Erwan Lair, professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Brest et à l'Université de Brest, qui est également le porteur national du projet IDEFI. Le docteur Adrien Basset, qui est praticien hospitalier au CHU de Brest, et moi-même, Alexandre Morel, responsable du pôle formation continue santé à l'UBO.
L'idée du centre de simulation est partie d'une constatation. En particulier en fac de médecine, on apprenait beaucoup de connaissances, mais on n'avait pas de compétences, on n'apprenait pas à mettre nos compétences en action, en vraie situation. Donc on est parti de ce concept-là de la simulation en santé. On met les professionnels en action dans un milieu professionnel qui ressemble à celui qu'ils vont devoir affronter. On les fait aussi surtout travailler ensemble en multiprofessionnel, les infirmiers avec les aides-soignants et avec les médecins, l'arrivée des sapeurs-pompiers, et donc pour qu'ils acquièrent vraiment des compétences, des vraies compétences de terrain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est parti de ce concept-là et on a essayé de l'appliquer tout au long des curriculums. Et donc maintenant, sur la faculté de médecine de Brest, qu'on soit en formation initiale ou en formation continue, on a essayé de mettre de façon systématique dans chacun de ces curriculums des parcours de simulation en santé. Alors bien entendu, chez les jeunes étudiants, ça va plutôt être de la gestuelle, et plus on va avancer dans la spécialité, plus on va aller vers des choses un peu complexes, de la simulation haute fidélité, de la gestion d'équipe.
Ok docteur, 14h30, SSH en cours pour victime numéro 3, douleur abdo sans pouls.
Ce prix PEPS est une reconnaissance institutionnelle. Concrètement, pour le Centre de Simulation Santé, le CESIM, à l'UBO, un projet est en cours, c'est de reproduire un système maritime, reproduire une plateforme maritime. Cette plateforme va nous permettre de placer l'étudiant, de placer l'apprenant plus largement dans une situation authentique. Une plateforme immersive avec un écran 220 degrés, une reproduction des odeurs, l'odeur du sel, l'odeur des hydrocarbures, mais également une plateforme qui va permettre de bouger, qui va permettre de reproduire le mouvement de la mer. À l'UBO, au CESIM, on ne vise pas une compétence, on l'acquiert.
Bravo. Messieurs, je crois, monsieur Lair, c'est vous qui... réagissez à cette remise de prix, qu'est-ce que ça signifie pour vous, comment vous le vivez?
Merci beaucoup, c'est d'abord une très grande reconnaissance pour nous, c'est la reconnaissance de cette année de travail, puisqu'on est parti de pas grand-chose. La simulation en santé était très nettement en retard en France par rapport aux autres pays, en particulier les pays anglo-saxons, donc on est parti de rien. On a bénéficié d'un énorme soutien de l'université au départ, puis du CHU qui nous a amené des professionnels, mais qui a aussi et surtout fait former ces professionnels à la réduction de l'erreur en équipe. Donc c'est une vraie reconnaissance pour ça. Si je pouvais résumer en deux mots le projet, c'est d'abord continuum. On acquiert les connaissances dès la formation initiale et puis progressivement on va monter en compétences, comme l'a bien dit Alexandre pendant le projet. Donc ça c'est le premier mot, et puis le deuxième mot c'est interdisciplinarité. Jusqu'à présent on avait tendance à compartimenter un peu nos savoirs, les médecins apprenaient ensemble, les infirmiers apprenaient ensemble, les étudiants apprenaient d'un côté, les professionnels apprenaient de l'autre, donc la formation initiale et la formation continue étaient séparées également. Et l'idée du CESIM c'est vraiment de décompartimenter tout ça. On essaye, dans la grande majorité des cas, de ne plus faire une seule formation qui ne s'adresse qu'à une seule catégorie. Donc les simulations en général, c'est des étudiants, des professionnels chevronnés, des paramédicaux, tout paramédicaux venant, et puis des médecins en même temps. Et c'est comme ça, à notre avis, que ça fait du sens. Mais je vais juste terminer pour dire que c'est aussi la reconnaissance de l'impact qu'a eu l'idée FIREMIS pour l'Université de Bretagne occidentale, parce que très clairement, tout ce qu'on a fait pendant ces 7 dernières années n'aurait pas pu se faire sans l'investissement IDEFI majeur.
Un tout petit mot aussi, parce que quand on voit le film, c'est assez frappant. La technologie sert pour la simulation, mais on la voit aussi dans les actes médicaux, et il y a des écrans partout, des données partout, et des batteries de données à gérer.
L'idée de la technologie, c'est plus de l'utiliser comme un outil avant tout. Ça nous sert à favoriser l'immersivité en particulier, mais l'immersivité, comme Alexandre l'a dit, des fois c'est des choses toutes simples, hein, c'est juste un petit peu d'odeur, l'odeur du clou de girofle pour simuler le cabinet dentaire, c'est vraiment tout bête, hein, ça vaut 2 euros ça. Donc il n'y a pas que de la technologie, Voilà, mais on essaye toujours plus de privilégier après le travail sur les ressources humaines. Et juste pour terminer aussi, on a des formidables modèles de patients. Et donc, on a aussi un formidable moyen de valoriser et de développer des nouvelles technologies.
Bravo, merci. Nous enchaînons avec donc la dernière catégorie et le dernier prix de ces premiers prix PEPS, la catégorie recherche et pédagogie, dont on a vu d'ailleurs tout au long de la matinée combien elle était très importante. Beaucoup d'intervenants de la matinée l'ont souligné et s'en sont félicités. C'est le projet dispositif d'auto-formation guidé en langue, au pluriel, porté par Annick Rivens-Montpan, Martine Eisenbeis et Marco Capellini de l'Université Lille 3. Bonjour, bienvenue. Et nous regardons votre film.
Alors, nous sommes une équipe de 3 de l'Université de Lille. Annick Rivens-Montpéan, professeure des universités en didactique des langues et chargée de mission à la politique des langues. Marco Capellini, maître de conférences en didactique des langues, et moi-même, Martina Eisenbeis, enseignante de français langue étrangère.
Dans ce dispositif d'auto-formation guidée en langue, en anglais, français langue étrangère, italien puis espagnol, les étudiants passent un test de positionnement et définissent leurs objectifs lors d'un entretien avec un enseignant conseiller. Et choisissent des tâches qui vont répondre à leurs besoins. Et ils vont donc travailler sur des ressources qui sont indexées au centre de ressources en langue, entre autres, mais ils peuvent en choisir d'autres. Dès le début, ce dispositif a été le terrain de recherche-action dans laquelle se sont engagés tous les membres de l'équipe et ça a donné lieu à de nombreuses publications.
Pour les étudiants, ce n'est pas toujours évident parce qu'ils sont un peu déstabilisés au début. Mais petit à petit, ils sont amenés à prendre des décisions, à prendre en main leur parcours, puisqu'ils ont le choix, une grande liberté dans le choix des activités. Et ils ont donc une pratique active. Ils doivent analyser leur profil d'apprenant, ils doivent parfois modifier leur stratégie d'apprenant. Et dans ce sens, ils apprennent à s'autonomiser. Et ça nous paraît nécessaire, puisqu'on forme des apprenants de langue, et qu'on forme aussi des gens qui devraient continuer à apprendre dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Donc pour nous, enseignants de langue, ça nécessite et ça implique un changement de posture, puisqu'on passe d'un rôle d'enseignant transmetteur de savoir à un rôle d'enseignant conseiller. Et bien sûr, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Tout d'abord, une réflexion sur le guidage et sur les modalités d'autonomisation. Comment les étudiants s'organisent, comment ils définissent leurs objectifs. Ensuite, une analyse des interactions qui sont mises en œuvre par les étudiants sur des blogs, sur des forums, dans des visioconférences avec un natif, par exemple. Et puis enfin, une réflexion sur la formation de formateurs, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé sur la manière dont ils transfèrent ces pratiques pédagogiques, cette expérience pédagogique, dans leur pratique de futur enseignant, pour autonomiser leurs élèves à eux.
Ce prix, ça nous apporte une reconnaissance de nos pratiques qui ne sont pas toujours comprises ou acceptées, bon, ce qui est souvent le cas lorsqu'on innove.
Bravo, bravo à nouveau. Thierry Mandon vous remet donc le prix de cette catégorie recherche en pédagogie. Bravo, et je crois que c'est Annick qui commente cette magnifique victoire.
Merci. Un grand merci donc pour ce prix PEPS dont la dynamique du nom nous avait semblé de bon augure et qui reflète bien l'état d'esprit de l'équipe porteuse du projet ici présente. Nous étions à la fois intervenants dans la formation concernée, mais aussi chercheurs impliqués dans la démarche d'ingénierie qui caractérise le projet, ou en d'autres termes dans la recherche-action qui a été menée systématiquement au sein du dispositif. Je voudrais aussi mentionner Marie-Josée Barbeau, qui a été l'élément déclencheur il y a 9 ans, quand elle était en poste à Lille 3. Alors aujourd'hui, peut-être c'est la démarche qui est récompensée. Ça nous a permis d'engager différents moyens d'action dans le secteur langue à Lille 3, former des étudiants, futurs enseignants en langue, mais aussi on a déployé ces moyens pour former des formateurs dans des ateliers de pratique et recherche animés entre autres ici par Marco, avec des échanges de pratiques appuyés sur la recherche. Le centre de ressources en langue ici présent nous a servi de laboratoire de pratique.
Nous avons étendu ça à d'autres étudiants, donc pour leur formation en langue. Et nous voudrions insister aussi, pour finir, sur l'ouverture du dispositif avec le recours au pair, on l'a mentionné, pour du tandem, hein, inclure les étudiants internationaux dans la formation en langue de nos propres étudiants en France, utiliser des ressources numériques développées localement ou non, et puis donc ouvrir les modalités de médiation avec des entretiens conseils, des séances d'apprendre à apprendre et de la pratique orale avec des modalités diverses. Je pense que c'est peut-être aussi la configuration du dispositif qui est souple et c'est peut-être aussi ce qui peut apporter des choses aux étudiants.
Merci. Merci beaucoup. Si on avait le temps, vous nous expliqueriez ce que vous nous avez dit de manière très sibylline sur la fin. Quand on innove, on n'a pas que des amis, on ne se fait pas que des amis. Vous en êtes resté là, ça nous donne envie d'en savoir plus. Mais je ne sais pas si vous pouvez le faire en trois mots.
Non, c'est-à-dire
qui, c'est quand même... C'est pas possible, ça n'existe pas. Si.
disons qu'il y a une communauté à convaincre, une communauté, et peut-être c'est l'intérêt aussi de ces journées, c'est l'effet boule de neige, c'est s'engager, et puis peut-être montrer, voir que ça peut fonctionner, donner envie. Et puis essayer de convaincre, mais évidemment, ça se fait, je pense, petit à petit, et pas en le proclamant.
Bon, et vous y êtes arrivé,
voilà.
Et bravo, et continuez.
Merci.
Et le ministre Thierry Mandon peut conclure ses premiers prix.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est un propos très, très décousu, quasi improvisé que je voudrais avoir devant vous en vous disant je ne vais pas clore. D'abord, il n'y a rien à clore. On a remis ces prix à des personnes et à des initiatives qui le méritent, mais plutôt vous encourager, tous et toutes ici, qui n'avaient pas besoin de l'être, à innover. Ces journées, c'est les premières journées, pas seulement ce prix, ces journées autour de l'enseignement supérieur, d'innovation. Puis pédagogique, c'est les premières journées, elles ont commencé aujourd'hui, elles se prolongent demain. Elles ont même eu un lever de rideau mardi, avec une demi-journée consacrée à la recherche en éducation. Demi-journée passionnante à laquelle j'ai eu la joie d'assister en partie. Et cette première, c'est pas parce qu'on a oublié les années précédentes de le faire, c'est parce que c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment d'encourager toutes les initiatives, tous les acteurs de terrain, et plus généralement, même de pousser, de susciter des initiatives et du réinvestissement dans l'innovation pédagogique. C'est le moment d'abord parce que le pays, à travers la stratégie nationale d'enseignement supérieur, s'est finalement mis devant lui un défi incroyable. Le défi de la Stranes, 60% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur, des objectifs de réussite des parcours qui mènent au diplôme X et S de l'enseignement supérieur, et donc une volonté de démocratiser plus encore l'accès aux études supérieures. Et avec cette démocratisation vient forcément la question de l'hétérogénéité des publics, qu'on ne peut plus traiter de manière tayloriste, voilà, mais qu'on est obligé de traiter d'une manière beaucoup plus innovante, beaucoup plus diversifiée pour permettre à cette diversité des parcours de réussite. Et puis aussi, quelque chose qu'on dit moins, mais que vous commencez mieux que quiconque à voir, c'est que la démocratisation, ce n'est pas seulement des publics différents qu'il faut amener vers le diplôme, vers la réussite, mais c'est aussi une exigence démocratique de la part des nouveaux étudiants de n'être plus sujet passif de leur enseignement. Je pense même que nous n'en sommes pour le coup qu'aux prémices. Mais ici ou là, sur le terrain, dans des universités, dans des écoles, on voit déjà des formes actives, très actives, on l'a vu d'ailleurs dans quelques initiatives ici, de participation des étudiants à une forme pédagogique différente de la forme traditionnelle. Donc, premièrement, il y a ces journées, c'est le moment, parce que c'est logique au regard des objectifs que l'État s'est donné. Deuxièmement, on est condamné à le faire. On est condamné à le faire. On est condamné pour des raisons technologiques. Il n'y a pas que le numérique, il y a évidemment le numérique et tout ce qui va avec, les datas et le rôle des datas en matière de... et les potentialités des datas en matière d'interrogation de ce qu'est la réussite d'une pédagogie. Mais il y a aussi les apports des sciences cognitives et puis il y a un nombre de champs dont on a fait un bref survol mardi après-midi qui montre qu'il y a une grande transformation qui se prépare. et que cette grande transformation, c'est une formidable opportunité, c'est aussi une menace pour des pays comme les nôtres qui ont des systèmes d'enseignement supérieur qui reposent sur une grande part sur la puissance publique, le secteur public. Des acteurs du monde privé qui ont des moyens considérables, parfois des banques de données considérables, sont aujourd'hui en train de se positionner sur ce futur marché révolutionné de l'acquisition et du transfert de connaissances et de compétences. Et un système public comme le nôtre, auquel nous croyons dur comme fer, je dirais même d'ailleurs une société, une nation qui tient d'abord et avant tout parce qu'elle a comme axe structurant son système d'enseignement primaire, secondaire et son enseignement supérieur, si elle ne fait pas cet effort d'innovation, elle sera d'abord rognée aux marges, puis contestée dans son cœur même par ces acteurs du privé qui vont, voilà, des marchés fantastiques, qui, sur l'angoisse de familles, qui veulent que leur enfant réussisse, sont prêts à dépenser des sommes déraisonnables pour donner plus de chances de réussite à leurs enfants, quitte à passer par des formes d'enseignement complètement privatisées. Et donc, nous sommes condamnés à le faire. Et donc, c'est bien à la fois le moment, parce que nous l'avons voulu, mais aussi parce que nous le devons, si nous regardons ce grand marché en chambardement qui est devenu le marché de la transmission des connaissances au niveau mondial. Donc, merci d'abord à ceux qui l'ont organisé, voulu, et la justice m'impose de dire que c'est notre administration qui m'a fait cette suggestion. Et donc, je remercie Mme Bonafous, l'ensemble de l'administration ici, d'avoir senti que c'était le moment. Et en sentant que c'était le moment, d'avoir mesuré, y compris pour elle-même, ce que ça veut dire comme évolution. Parce que l'innovation pédagogique, je le disais tout à l'heure d'un mot, ça part, c'est bottom-up, ça part du terrain, c'est des initiatives. Et alors nous, dans l'enseignement supérieur, avec le début d'autonomie des établissements, les conditions sont créées. D'ailleurs, je crois que l'autonomie a vraiment été faite pour ça, principalement pour ça, pour justement que les acteurs de terrain soient innovants, prennent des initiatives, et donc nous pouvons le faire. Mais ça nous remet en cause. Et tant mieux. Ça remet en cause, d'abord, un certain nombre on ne peut pas rendre ou aider les innovateurs de terrain au plan pédagogique sans ouvrir un certain nombre de chantiers qui tutoient les conditions de réussite de l'innovation pédagogique. La question immobilière, c'est tout bête, mais... à l'évidence, plus on innovera de manière pédagogique, plus les locaux de l'enseignement supérieur devront évoluer. Je n'ai pas besoin de faire de grandes dissertations. Mais encore faut-il, pour qu'ils puissent évoluer, qu'on ne soit pas obligé de demander à bureau B717 de Bercy la permission de changer quatre fenêtres et éventuellement d'emprunter, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut ouvrir le chantier immobilier. Le chantier de la formation continue, parce que l'innovation pédagogique, on l'a vu aussi tout à l'heure à propos d'une des initiatives notamment, on ne connaît pas la frontière formation initiale, formation continue. C'est quelque chose qui, horizontalement, touche l'ensemble des modes de transmission des connaissances et des compétences. Et donc, il faut aider, appuyer, accompagner les établissements pour qu'ils investissent beaucoup plus fortement le marché de la formation continue. Les questions de place de l'administration centrale et de rôle de l'administration centrale, c'est un chantier très long que nous avons décidé d'engager avec Simone Bonafous, dont je me réjouis, qui sera long, qui sera difficile, y compris pour les agents de l'administration centrale, que finalement d'évoluer culturellement et progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il y a un cadre réglementaire qui est ce qui est, il y a un cadre législatif qui est ce qui est, il y a des ministres exigeants qui sont ce qu'ils sont, donc il y a un système de pesanteur institutionnelle qui fait qu'on ne va pas évoluer du jour au lendemain, mais quand même, comment passer de système de contrôle a priori, d'encadrement a priori des initiatives qui finalement brident, retardent, à des systèmes plus responsabilisants des acteurs de terrain, avec des formes nouvelles de contrôle a posteriori. Donc, il y a là une mutation engagée, amorcée par l'administration, qui, encore une fois, sera longue, mais qui est essentielle. Il y a autre chantier, celui de la donnée, celui de la récolte des données, celui de la remontée quasiment, enfin, le plus rapidement possible des données qui permettent d'apprécier
si cette innovation pédagogique permet une meilleure réussite des étudiants, c'est quand même ça le but de la manœuvre, comment on fait connaître ces initiatives-là, pas seulement les 6 qu'on a vues là qui méritent de l'aide, mais déjà les 300 qui ont répondu, et peut-être d'autres, comment on recolle tout ça, comment on rend tout ça accessible. Donc des chantiers de transformation très, très profonds. Et c'est un peu ça qui nous anime, et c'est un peu cette volonté-là que nous amorçons aujourd'hui, avec modestie, parce que c'est un chantier gigantesque, et pas d'arrogance en disant oui, on sait ce qu'il faut faire. Je pense qu'en plus, il vaut mieux se poser des bonnes questions, associer la recherche à ce type de travaux, mais en même temps avec une détermination réelle. Et de ce point de vue-là, si nous-mêmes allons faire des efforts sur nous-mêmes, je profite de ce moment pour dire aussi que la communauté doit faire des efforts sur elle-même aussi. Si on dit l'innovation pédagogique, c'est très important, c'est extrêmement important dans les années qui viennent. Ceux qui font, les enseignants-chercheurs, qui s'investissent dans la pédagogie, doivent avoir leur parcours professionnel bonifié. On ne peut pas dire, mais c'est une évidence. Je veux dire, alors, je dis ça de manière en fin de soirée, où l'hypoglycémie gagne, mais c'est une évidence. C'est plus qu'une évidence, c'est inéluctable. Et une communauté qui freinerait cette évolution-là, qui ferait comme si elle ne la voyait pas, qui l'empêcherait, se ferait du mal à elle-même. Mais je le dis, voilà, on est sur des transformations culturelles profondes. Au terme de cette première journée, et pour vous encourager demain à être encore plus motivé que vous l'êtes, je devais faire passer ce message, c'est celui-là. Continuez à innover. Vous avez dans cette maison des hommes, des femmes, et pas seulement des élus, dans l'administration, qui sont convaincus que c'est l'avenir de l'enseignement supérieur qui se joue sur ce terrain des initiatives de transformation pédagogique de nos universités et de nos établissements. Merci à tous.
Merci. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Il y a la photo, la grande photo avec tous les lauréats. Le ministre, le président du jury. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre pour une grande photo de ces premiers lauréats de ce premier prix. Voilà.
Un grand merci à la MIPNES et à Claude Bertrand qui ont eu aussi au départ l'idée de ce prix, qui l'ont organisé, etc. Bon, vraiment, il y a derrière beaucoup de travail et beaucoup d'idées dans les équipes. Donc, je tiens quand même au nom du ministre et de moi-même de les remercier.